Bon, alors écoutez, on se rejoint pour la dernière fois. Donc, ce que je vous propose, c'est ce que je propose habituellement quand on est en présentiel avec les étudiants, c'est-à-dire que la dernière séance est une séance de foire aux questions, en fait, hein, plus qu'un apport, même si vous avez eu un enregistrement, une capsule réalisée avec Jean-Yves. Et donc, où j'ai abordé deux illustrations d'actualité,
Oui.
un petit peu comme des, si vous voulez, des. Oui, pour sortir un peu du parcours historique et vous montrer les implications concrètes de tout ça dans deux situations, hélas,
Deux
actuelles.
situations, là.
Voilà. Donc, on peut, vous pouvez m'interroger sur
Actuelle.
ça, vous
Voilà.
m'interrogez sur l'ensemble du parcours. Hein, ou des questions que je n'aurais pas abordées du tout et sur lesquelles vous voudriez avoir au moins un éclairage. Voilà, donc c'est ouvert, c'est comme vous le souhaitez. La première question est toujours la plus gênante, donc on peut passer à la seconde, hein, sans problème.
Mais j'ai une question concernant le document des cours 5 et 6 que vous avez mis
Ouais.
sur le site du CIF. Et
Ouais.
alors, vous parlez de la loi nouvelle. Donc,
Oui.
je ne sais pas de quoi vous parlez. Et puis
Oui.
également le schisme silencieux au cœur de l'Église.
Ah oui.
Vous
Alors,
vouliez expliciter.
oui. Alors, chaque année, j'actualise mon cours. Alors, cette année, je ne pensais pas l'actualiser de cette façon, hein. Parce que je n'avais pas prévu la pandémie. Moi, comme tout le monde, je pensais que ce serait une grippette, n'est-ce pas? Et donc,
Ben voilà.
le plan que vous avez eu, c'est le plan d'RP, hein. Alors, surtout que les dernières séances, je vous dis, je les fais beaucoup en fonction de l'actualité. Alors, la loi nouvelle, c'est facile de vous répondre, parce que ça, c'est quelque chose qui demeure. Je crois que j'en ai dit un mot quand même. Peut-être c'est pas avec vous, peut-être c'était avec le groupe du soir, c'est possible. La loi nouvelle, c'est un traité, un tout petit traité, minuscule, mais essentiel, de la somme de théologie de saint Thomas. C'est un traité, c'est beaucoup dire, c'est une question, c'est. Et donc, si vous ouvrez si vous parcourez la somme de théologie, enfin, on la parcourt comme un. Comment dirais-je? Certainement pas comme un musée, parce qu'un musée c'est mort, mais on la parcourt comme une cathédrale, oui, comme j'avais dit à un moment donné. Alors il y a un tout petit traité qui s'appelle la loi nouvelle, et l'expression loi nouvelle chez saint Thomas, c'est l'équivalent de l'évangile. Donc quand saint Thomas parle de loi nouvelle, il parle de l'évangile, c'est-à-dire, et c'est surtout pour distinguer. De façon radicale, la loi ancienne, qui est la loi de l'Ancien Testament, de la loi nouvelle, qui est celle du Nouveau Testament, donc l'Évangile. Hein. On retrouverait exactement cette thématique chez les pères de l'Église, hein, quand il parlait de la promesse et de l'accomplissement. La promesse, le temps de la loi, c'est le temps de la première alliance. Et le temps de la grâce, qui est le temps de l'accomplissement, c'est le temps du Nouveau Testament et donc de l'Évangile. Et donc, loi nouvelle chez saint Thomas est synonyme à Évangile. Ensuite, en ce qui concerne le schisme silencieux, ce n'est pas une expression de moi, c'est une expression d'un théologien jésuite, d'un ecclésiologue jésuite dont le nom va m'échapper. Bon, bref, qui s'appelle Christophe. Bon, bref, un théologien, un ecclésiologue jésuite qui décrit en fait la situation. Christophe Théobald, voilà, Christophe Théobald, Theobald, hein, et Christophe Théobald a théorisé il y a quelques années le départ silencieux. C'est-à-dire sur la pointe des pieds, hein, de sans protestation, sans même se signaler parfois, de beaucoup de catholiques qui, suite à la, au scandale, mais pas seulement au scandale dans l'Église catholique, suite à l'impossible réforme, on va dire, de l'Église catholique, ont fait le choix de quitter l'Église catholique, sans le dire, hein, forcément, sans plus rien attendre. Mais c'est pour ça qu'ils comparent ça à un schisme d'un nouveau genre. En général, quand on fait un schisme, on se braque contre l'Église, contre le siège romain, puisque c'est ça la définition du schisme. Et on le dit haut et clair. Là, il y a beaucoup de catholiques qui ont quitté l'Église catholique sans le dire à personne, mais qui l'ont bien quitté. Hein. Par exemple, vous avez ça tout à fait, de manière tout à fait massive dans l'Église d'Allemagne. Hein. L'Église d'Allemagne a connu ce que Théobald appelle un schisme silencieux, c'est-à-dire les gens partent, une hémorragie si vous voulez, et puis ils n'ont plus de pratique religieuse et ils abandonnent les églises, ils abandonnent leur église. Donc c'est évidemment le constat d'un drame qui est celui que l'Église catholique connaît dans certaines régions, y compris chez nous, hein, et qui est qui est tout à fait, comme tous les drames, c'est l'horreur, quoi. Hein. Après, il faut faire un diagnostic et éventuellement choisir un traitement. Mais voilà, schisme silencieux, ça veut dire ça.
D'accord, merci.
Ça s'est passé quand ?
Alors, Théobald, il en a parlé, je pense, il y a une dizaine d'années déjà, à peine, entre 5 et 10 ans. Hein. Et malheureusement, ce n'est pas terminé. Ça s'est passé quand ? Ça se passe tout le temps. C'est-à-dire que, par exemple, si je vais reprendre l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne est en synode actuellement. Et le synode de l'Église d'Allemagne a pour but essaye de répondre à ce schisme silencieux. En plus, vous savez que si je reste sur l'exemple allemand, vous savez que l'exemple allemand est très différent du nôtre, puisqu'ils ne connaissent pas la laïcité qui est la nôtre, et ils ont un impôt d'État. Les catholiques, c'est ce qu'on appelle en Allemagne le Kirchensteuer, donc l'impôt pour l'Église. Et il est évident que si les catholiques ne payent plus l'impôt, si on ne paye plus l'impôt pour l'Église, c'est très embêtant pour l'Église, parce que l'Église, financièrement, se casse la figure. Donc, si vous voulez, les catholiques allemands ont un levier d'influence sur l'Église qui est encore plus fort que chez nous.
C'est une façon de protester.
Oui, oui, oui. C'est le terme protester est le bon d'ailleurs, puisque c'est le protestantisme hein, en Allemagne. Mais l'origine, en tout cas, c'est de protester. C'est une façon de protester. Mais on ne proteste plus en se manifestant. On convient que, si vous voulez, ce sont des situations dramatiques, parce qu'on convient que l'Église ne bouge pas. Et donc, comme il n'y a plus rien à faire, on quitte l'Église. C'est la situation de certains catholiques, hein, mais enfin en Allemagne, en Suisse, etc., dans beaucoup de pays germanophones, en Autriche aussi beaucoup, hein, c'est une situation qui est très préoccupante et que les évêques là-bas analysent de façon inquiète et essayent de trouver des solutions. Hein. Alors, il y a une autre situation, si vous voulez, sont les transferts ou les transfuges, c'est-à-dire lorsque les gens ne sont plus satisfaits de l'Église catholique, ils rejoignent d'autres églises chrétiennes, en particulier les nouvelles communautés protestantes. Hein. C'est la situation massive en Amérique latine. Hein. C'est une situation que connaît très bien le pape François, puisque il a assisté tout au long de son épiscopat à l'hémorragie des catholiques argentins vers les nouvelles communautés protestantes. Hein. Nouvelles communautés protestantes qu'on trouve en France. Hein. La banlieue de Paris est pleine de nouvelles communautés protestantes, en particulier dans le 93, dans le 9-3, comme ils disent, hein, qui sont des communautés très, 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 très très différente de l'ancien protestantisme qu'on connaît parfois mieux, hein, c'est-à-dire les luthéraux catholiques, puisque maintenant c'est une les luthéraux calvinistes, puisque maintenant c'est un ce qu'on appelle l'Église unie en France. Et donc l'Église unie en France, c'est une Église finalement ancienne, hein, et qui a parfois des difficultés pour dialoguer avec les nouveaux protestants, qui ont un profil ecclésiologique très différent. Mais depuis maintenant des dizaines d'années, hein, l'Amérique latine voit l'Église catholique en Amérique latine voit une véritable hémorragie de ses membres vers les nouvelles églises protestantes. C'est d'ailleurs le grand défi, si vous voulez, du synode pour l'Amazonie, hein. Le synode pour l'Amazonie que François avait convoqué avait justement pour but, alors peut-être pas tout à fait avoué parce que ça fait un peu concurrence si vous voulez, mais d'apporter une réponse catholique à la situation d'hémorragie du catholicisme là-bas vers les nouvelles communautés protestantes.
D'accord. Merci.
Je vous en prie.
Mais je me pose souvent la question, est-ce qu'un jour, enfin, ça, je ne suis pas trop concernée vu mon âge, mais je me dis qu'un jour, on va peut-être être obligé de choisir entre les tradis et les évangéliques, parce que dans le milieu, c'est un peu mou, quoi. On n'arrive pas à trouver la joie qu'il y a chez les évangéliques, enfin, qui s'exprime bruyamment. Et d'un autre côté, il y a ceux qui sont... qui ont la nécessité de choses traditionnelles qui sont mal comprises, comme par exemple la communion, il ne faut absolument pas que ce soit dans la main, alors qu'on peut leur trouver ce texte ancien, je ne me rappelle plus qui il est, mais vous le connaissez.
Oui, je vois quel texte.
Un petit trône, et voilà, tellement beau. Et eux, c'est absolument, non, ça ne se fait pas, c'est... Alors, on est entre les vieux tradis et les jeunes qui s'expriment dans la joie. C'est très difficile de trouver une moyenne pour le catholique aujourd'hui.
Alors, d'où l'utilité de ce cours.
L'utilité de ce cours.
C'est-à-dire que trouver une moyenne, c'est dit de façon, populaire, mais au bon sens du terme, ce qu'on appelle la vertu. La voie moyenne, c'est la vertu. Alors, la voie moyenne, quand on dit moyen, ça ne veut pas dire médiocre. Hein. La voie moyenne, c'est la voie de la sagesse. Hein. Cela dit, alors pour donner un autre élément de réponse à votre question, même à votre constat, précisément, dans l'Église catholique, on n'a pas à choisir. C'est-à-dire que le geste qui consiste dans l'Église à choisir un camp, ou une sensibilité, ou un style, peut amener à des comportements contraires à la communion, hein, puisque l'Église catholique est une communion, c'est une communion d'Église, donc il y a une diversité légitime, il y a des sensibilités différentes légitimes, parfois d'ailleurs on se demande, à force différente, comment c'est possible que tout ce monde la tienne ensemble, hein, c'est le grand défi. Je vous signale pour répondre, la meilleure réponse à votre question, c'est le livre du pape qui vient de sortir il y a quelques jours et qui doit s'appeler « Unis dans la diversité » ou « Divers dans l'unité », je ne sais pas. C'est le dernier livre du pape. Hein. C'était le grand propos de Vatican II, c'était justement de conjuguer université et unité et diversité. Hein. Alors, vous savez, l'Église catholique a toujours avancé comme ça, c'est-à-dire en sauvegardant l'unité et en essayant d'accueillir dans l'unité une pluralité légitime. C'est la définition même du mot catholique. Hein. Être catholique, c'est lui indique dans le mot grec l'universalité. Mais c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et ça peut être extrêmement dérangeant, et vous avez raison de dire qu'au quotidien, on a parfois l'impression plus d'avoir affaire à une hétérogénéité qu'à une communion. Donc, et bien entendu, la liturgie, puisque vous, vous, vous évoquiez un aspect de la liturgie. La liturgie est un lieu, est normalement le premier lieu de notre communion, hein, et elle, parfois la liturgie se comporte comme si elle était un lieu de je sais pas comment dire, enfin de, oui, de désunion. Enfin, je ne sais pas. Voyez par exemple, il y a eu de très nombreuses querelles dans l'Église appelées querelles des rites. Bon, et il y en a eu de très nombreuses dans son histoire. Il y en a toujours à l'heure actuelle. C'est, j'allais dire, faut pas paniquer à cause de ça, mais c'est vrai que ça peut être quotidiennement très très difficile. Oui, oui. Alors, si vous voulez, j'évoquais tout à l'heure la question du schisme silencieux. Il y a un autre aspect du catholicisme qui me vient à l'idée maintenant en vous écoutant, de plus en plus, le catholicisme, en tout cas dans nos régions, devient une question de choix. C'est-à-dire, je choisis ma paroisse, je choisis mon curé, je choisis ce style de liturgie, ce style d'assemblée. Vous voyez ? C'est-à-dire que, si je prends l'exemple que je connais en ce moment, l'exemple de Paris, vous me direz, en ce moment, on n'a pas tellement le choix, hein, puisque tout est fermé, enfin, ça ne va pas durer longtemps, mais on choisit sa paroisse. Beaucoup de catholiques choisissent, c'est-à-dire ils vont pas forcément dans la paroisse qui est juste à côté de chez eux, qui est sur le territoire, hein, mais ils vont à l'autre bout de Paris parce qu'ils sont plus à l'aise avec telle ou telle célébration, telle ou telle prédication. C'est légitime, c'est légitime, et en même temps il faut rester vigilant parce que on peut parfois choisir et En choisissant, parfois on exclut. Donc c'est délicat, vous voyez, mais je donne l'exemple du choix parce que cette situation du catholicisme contemporain, elle est même prévue maintenant, inscrite dans le code de droit canon. C'est-à-dire le code de droit canon parle de paroisse d'élection. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a acté le fait que les catholiques maintenant vont choisir. Et donc, on les bloque pas, si j'ose dire, sur un territoire où, je sais pas quoi, la prédication du curé est vraiment nulle, la liturgie est nulle, et puis ce qu'il dit, c'est consternant, et puis tout ce qu'on veut. Hein, et puis, là, il y a du latin, il n'y a pas de latin, là, il y a une chorale, il n'y a pas de chorale, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Hein, mais donc, la loi de l'Église, maintenant, inclut le fait que, dans une certaine mesure, on peut choisir. Parce que il y a une part de sensibilité, on ne va pas non plus fréquenter les sacrements en étant complètement maso, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il est acté qu'on puisse choisir une communauté parce qu'on s'y sent plus à l'aise. Vous voyez ? Et donc, c'est tout à fait légitime jusqu'à un certain point. Mais enfin, il y a beaucoup de marge. Hein. Parce que jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'il s'agit de garder la communion avec l'Église romaine. Donc ça nous laisse normalement une très large latitude. Alors, ce n'est pas vrai quand vous êtes en campagne et que vous devez déjà faire 50 km le matin pour avoir une messe. Et que là, vous n'avez pas la question du choix. Bon, ça c'est sûr, hein. Et que déjà vous devez prendre votre voiture, vous tapez 50 km pour avoir une messe, et que vous êtes déjà très content lorsque vous pouvez avoir la messe du dimanche.
Ouais, exact.
Mais ce sont des réalités qui sont extrêmement contrastées en France.
Extrêmement contrastées.
Le catholicisme n'est pas le même à Versailles, à Bourg-en-Bresse et à chez les Bretons et à Ajaccio et à Strasbourg. Hein. Vous avez, par exemple, en France actuellement, vous avez encore trois gros diocèses, enfin peut-être un peu plus. Oui, on va mettre. Donc il y a évidemment Paris, Versailles et Strasbourg. Paris, Versailles et Strasbourg font l'essentiel des vocations sacerdotales pour toute la France. Vous voyez, rien que ça, ça vous donne un prisme. Un prisme assez déformant sur l'Église de France. D'ailleurs, Strasbourg, ils sont un peu inquiets parce que les chiffres sont moins bons. Enfin, et même Paris, hein, Paris on a bien du mal maintenant à trouver un curé pour toutes les paroisses. Mais à Paris, vous, à Paris même, à Paris intramuros. Mmh. Vous voyez, c'est, nous ne sommes plus à Paris dans une situation de confort ecclésiastique, si j'ose dire, vous avez une paroisse tous les 500 mètres, on a bien du mal à trouver un curé maintenant pour toutes les paroisses.
Bah, ouais.
Les communautés, quand même.
Même si on demande à d'autres églises de nous aider, les Polonais, les Africains, etc. Hein, mais.
Il y a une congrégation qui s'appelle Fraternité, j'ai oublié.
Il y en a beaucoup hein, qui ont ce nom-là. Hein.
Et qui naviguent, qui rend des services là où on a besoin. Un de nos jeunes prêtres,
la Fraternité des prêtres pour la ville.
Voilà.
Ça. Alors, ça, c'est une création du cardinal Lustiger.
Oui.
Il y a longtemps, déjà, puisque c'est le cardinal Lustiger, ça nous ramène quelques années en arrière. Hein, et donc, le cardinal Lustiger avait proposé à des prêtres du diocèse de Paris de rendre des services dans les diocèses de banlieue parisienne. Ça marche toujours. Hein. Alors, c'est temporaire, mais vous avez par exemple un prêtre de Paris qui accepte un poste de curé en banlieue pendant un mandat, deux mandats. Voilà. Ça a été une intuition assez intéressante parce qu'effectivement, elle rend beaucoup de services. Et si vous regardez la situation des diocèses de banlieue, hormis Versailles, c'est dramatique. C'est tout à fait dramatique. Mais enfin, on retrouverait ce type de situation. Vous prenez par exemple, je ne sais pas, moi, pour ceux qui connaissent, Blois. Le diocèse de Blois, c'est terrible. Hein. Et puis, c'est des situations, il faut bien se dire, on n'a jamais connu cette situation depuis la Révolution française. Donc, c'est quand même quelque chose de... Pour le coup, c'est comme la pandémie, hein, c'est inédit. Hein. On n'a pas connu ça depuis la Révolution française. Alors, vous avez des exceptions notables. C'est amusant parce que votre question me renvoie à différentes situations. Vous avez des situations qui sont totalement incompréhensibles. Pour ceux qui connaissent Cahors, la région de Cahors, le diocèse de Cahors, on ne sait pas pourquoi se porte bien. On ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a régulièrement un flot de vocations. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même, c'est pas si mal. Hein, Cahors. Cahors, c'est pas si mal, et vous avez le gros diocèse à côté qui est Toulouse. Toulouse, c'est très mauvais. Voilà. Hein. Et donc, vous ne savez pas pourquoi. À Toulouse, ils ont de gros problèmes. À Cahors, qui est quand même une petite cité, hein, pour ceux qui connaissent Cahors, et un diocèse qui n'est pas énorme, hein, vous avez des ordinations, une ordination régulièrement. Donc, l'évêque de Cahors, il n'est pas en panique. L'archevêque de Toulouse, il est vraiment en panique. Voilà.
Il y a des communautés aussi, comme la communauté de Saint-Martin, qui est assez traditionnelle, mais ils pourvoient pas mal de prêtres un peu partout.
Oui, c'est la grosse communauté à l'heure actuelle. C'est très clairement la communauté qui a le vent en poupe, si on peut dire. C'est-à-dire c'est une communauté qui a énormément grossi et qui maintenant est demandée dans beaucoup, beaucoup de diocèses. Elle a pas mal d'avantages, si vous voulez. Elle a l'avantage de proposer d'abord à ses membres une vie en communauté, donc une vie de fraternité, ce qui évite aux prêtres d'être seuls. Et puis c'est une communauté, donc après il y a eu un phénomène de jeunes, les jeunes ont appelé les jeunes hein, dans cette communauté, très clairement. Et puis il y a certainement également une question de sensibilité ecclésiale, comme on dit pudiquement, c'est-à-dire c'est une communauté qui rassemble des prêtres de sensibilité, on va dire, j'aime pas les étiquettes du tout, mais enfin, pour faire vite, néoclassique et qui convient bien à, je sais pas comment on peut dire, qui convient bien à ce que recherchent les jeunes actuellement, enfin beaucoup de vocations en tout cas. Donc clairement, c'est une communauté qui rend des services dans énormément d'endroits en France. C'est même la communauté que les évêques appellent à la rescousse quand ils ne savent plus quoi faire. C'est une communauté qui, à l'origine d'ailleurs, vient. C'est amusant aussi que vous parliez de ça, parce que c'est entre le diocèse de Tours et le diocèse de Blois, l'origine. Hein, et c'est des prêtres qui vivaient ensemble en ruralité. Et c'est très intéressant comme projet, hein, parce qu'en ruralité, il n'y a pas que les déserts médicaux, il y a les déserts ecclésiaux. Et donc, ils ont vraiment répondu à une demande locale, et il faut dire que ça représente un charisme incontestable. Hein, quoi qu'on en pense par ailleurs, parce qu'il y a aussi des diocèses qui n'ont pas recours à eux, mais il y a incontestablement un charisme qui se reconnaît dans le temps que nous vivons. Ensuite, il y a eu le renouveau charismatique, hein, qui a rendu beaucoup de services, qui en rend encore beaucoup, un peu moins parce que le renouveau a eu ses propres problèmes, et donc il y a la seule communauté du renouveau qui est résistée au choc, c'est l'Emmanuel. Et l'Emmanuel représente une puissance, je ne sais pas comment dire, ecclésiale colossale en France, avec des mouvements. C'est un mouvement extrêmement puissant.
Et comment ça se passe en Afrique exactement? Parce qu'on a beaucoup de prêtres africains. Ça me rappelle un truc rigolo que disait David Macaire. Bon, il n'est pas africain, mais il disait « Heureusement, on est venu évangéliser les sauvages. C'est en retour des choses. On a évangélisé les Africains et maintenant, on a l'impression que les prêtres africains viennent un peu à notre secours. » Mais est-ce que c'est un clergé qui… Est-ce que les jeunes Africains ont des vocations, enfin ma question simple, est-ce que c'est une promotion oui. sociale?
Alors, d'abord, l'Afrique c'est un continent, donc comme dirait le général, c'est vaste, hein, et donc je ne vais pas vous donner une réponse pour tout un continent, je vais vous donner des éléments de réponse pour certains pays d'Afrique que je connais, pour y être allé ou… Étant dominicain, on a énormément de dominicains africains avec qui j'ai échangé depuis très très longtemps. Donc, alors ça dépend, hein, ça dépend. D'abord, vous avez évoqué une réalité qui est exacte. Donc, il y a une promotion sociale, incontestablement, hein, c'est-à-dire que une vocation correspond à une promotion sociale. C'est vrai. C'est pas vrai qu'en Afrique. C'est vrai en Inde aussi, énormément actuellement. Les jésuites en Inde ne savent plus quoi faire des vocations. Mais ce sont des vocations qui correspondent à des promotions sociales considérables. Vous savez, l'ascenseur social, là-bas, c'est l'Église. En Afrique aussi, mais c'est très varié en fait, hein, pas partout. D'abord, il y a une promotion sociale en Afrique d'un pays à un autre. C'est-à-dire que quand vous êtes, pour un pays que je connais, le Centrafrique, quand vous montez, si j'ose dire, comme on dit pour Marseille à Paris, hein, quand vous montez de Bangui à Dakar ou à Douala, c'est déjà une énorme promotion sociale. C'est-à-dire que vous passez d'une petite ville à Dakar ou à Douala, qui sont des villes avec des facultés de théologie, avec un style de vie qui est déjà une énorme promotion. Hein. Alors, il y a bien sûr un élément de promotion sociale, mais ce serait idiot et faux de réduire, et insultant de réduire ça à des questions de promotion sociale. Alors, ils ont des vocations, oui, c'est inégal, mais il y a des vocations, il y a pas mal de vocations, je vois en Centrafrique qu'il y en a. Il y en a plus dans le clergé séculier que dans le clergé régulier. Hein, pour des raisons qui mériteraient d'être étudiées d'ailleurs, mais bon, on ne sait pas très bien pourquoi, mais il y a plus de clergés séculiers que de clergés réguliers. Ensuite, ce sont des prêtres qui maintenant sont très bien formés, hein, c'est-à-dire ou bien ils sont formés localement, et de plus en plus, on les a poussés depuis de nombreuses années à se former localement, dans leur faculté de théologie à eux. Beaucoup viennent encore en France ou dans les universités européennes pour faire un grade de théologie, hein, une licence, parfois un doctorat, hein, et retournent ensuite en Afrique, enfin, pas toujours retournent en Afrique, mais souvent retournent en Afrique. voilà, et effectivement, participe, comme le disait David Macaire, participe à la à ce que Jean-Paul II aurait appelé la nouvelle évangélisation de la France, c'est-à-dire que ce sont les églises d'Afrique ou de Pologne, ou enfin c'est les deux gros bataillons hein, qui nous aident à tenir le ce qu'on peut encore tenir du maillage paroissial en France. Hein, je donnais l'exemple du diocèse de Blois, c'est évident. Hein. Diocèse de Blois est plein d'Africains, c'est massif, hein. C'est massif. C'est même plus maintenant un support, c'est un, ni un soutien, c'est parfois une, comment dire, une quasi-majorité, enfin, c'est considérable. Hein. On ne pourrait pas tenir nos... sans parler du diocèse de Fréjus, alors là, évidemment, c'est tout à fait international. Alors, pour l'Afrique, si vous voulez, on a dû assumer la décolonisation. Hein, ouais. Donc le but, ça a été de les autonomiser au maximum, notamment sur le terrain de la formation. Et puis après, ou concomitamment, de se rendre compte qu'ils pouvaient rendre des services très précieux en France. La grande difficulté des prêtres africains en ruralité en France, c'est l'accueil par les Français. Parce que quand vous mettez un prêtre africain tout seul dans un petit village français, il n'est pas forcément bien accueilli, voilà, par les Français. Et donc, typiquement, il mange tout seul le dimanche midi, dans sa cure. J'en connais comme ça. C'est dur, hein, parce qu'ils viennent rendre un service, ils sont dans une toute autre culture, vous savez, c'est très dur pour eux. Ils se dévouent beaucoup et on les laisse tomber parce que c'est l'Africain et voilà. Pas toujours comme ça, hein, mais ça peut être comme ça. En Suisse, que je connais un peu aussi, la situation de la Suisse est absolument extraordinaire aussi pour l'Afrique. Hein. Il y a beaucoup de prêtres africains en Suisse. Ah, il y a quelqu'un qui essaye de... Oui, je ne vous entends quasiment pas. Oui, bonjour, mais...
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des études de genre que vous avez abordées très, très peu dans le cours avec Jean-Yves, que vous avez mis en ligne.
J'en ai très peu parlé parce qu'on m'a demandé de ne pas en parler. Non, je
oui, rigole, c'est pour ça que je pose la question.
Non, mais ce n'est pas Jean-Yves.
Enfin, non, ce n'est pas pour ça.
Pas Jean-Yves. Non, c'est parce que...
Non, je sais bien que ce n'est pas Jean-Yves.
je vais... En fait, j'ai commencé mon cours aussi, je crois, en 2012, 13, je ne sais plus. Et en 2013, quand j'ai commencé mon cours, et dans les questions d'actualité, j'avais mis les études de genre parce qu'à l'époque... À l'époque, il y avait eu la grande querelle dont vous avez entendu, enfin la grande querelle dont vous avez entendu parler, peut-être qui était celle des manuels de sciences du vivant, on aurait dit de biologie hein, dans nos générations, de sciences nat, comme on disait, qui n'est-ce pas accueillaient dans le programme, donc dans leur programme, les études de genre. Alors il y a eu une querelle importante. Qui a touché l'enseignement catholique, donc, en particulier. Et comme j'enseigne aussi dans l'enseignement catholique, je leur ai parlé. Hein. Et donc, c'est à la faveur de l'année 2013 que j'avais inscrit la question des études de genre. Alors, c'est une question... je ne sais plus qui aussi m'a dit, mais tu pourras peut-être un peu changer de musique et nous parler un peu moins du genre et un peu plus de, je ne sais pas quoi, de l'écologie. Bon. Alors, les études de genre, c'est un sujet alors, extrêmement controversé et piégé comme une plage de débarquement. Hein, c'est-à-dire, vous sautez sur une bombe à chaque fois que vous posez un pied. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué. J'aime bien dire, parce que je pense que c'est vrai, en fait, que pour ceux qui se souviennent de leur classe de philo, il y avait un thème de philo qu'on nous enseignait qui s'appelait « Nature et culture ». On abordait des auteurs autour de nature et culture. Ben, les études de genre, c'est ça, en fait. C'est une manière moderne d'aborder cette vieille thématique philosophique, finalement, nature et culture. Ah, c'est très intéressant parce que si vous vous souvenez de ce que vous avez entendu pendant ce cours, c'est complètement, comment dirais-je, c'est une bombe pour la théologie morale. Hein, puisque le problème des études de genre, c'est qu'elles se heurtent de plein fouet, je peux vous dire que c'est très violent, elles se heurtent de plein fouet à ce que l'Église catholique appelle la nature. Et donc, les études de genre ont été vues comme une espèce de... Si je dis un cheval de Troie, c'est même pas ça, parce que le cheval de Troie, vous ne savez pas. Vous découvrez après. Mais là, c'est carrément un bulldog, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire, ça mord au mollet et ça ne lâche plus. Hein. Alors, de quoi s'agit-il ? Pour le dire vite, je distingue entre la théorie du genre et les études de genre. Alors, la théorie du genre, c'est quelque chose que l'on trouve depuis une vingtaine d'années dans les militantismes, parce qu'il s'agit avant tout de militants, pas que, mais des militants, dans les militantismes auprès des grandes organisations européennes ou internationales pour les droits des personnes discriminées, et en particulier les droits dits LGBT, LGBTI, etc., enfin LGBT, plus. Et donc la théorie du genre se proposait de faire évoluer ses droits et donc d'avoir une action militante pour faire évoluer ses droits. D'ailleurs, ses droits ont beaucoup évolué. Voilà. Je tiens tout de suite à dire qu'il y a une controverse sur l'expression théorie du genre, hein, puisque avec le problème d'ailleurs du décalage entre l'anglais et le français. Théorie et théorie en français. Bon. La théorie du genre, c'est une expression que vous ne trouvez pas chez les militants, en réalité. Mais c'est une expression avec laquelle leurs détracteurs les caractérisent. Vous voyez ? C'est-à-dire, vous êtes un tenant de la théorie du genre. Quand on vous dit que vous êtes un tenant de la théorie du genre, en général, on ne vous fait pas un compliment. C'est-à-dire, on vous dit, vous êtes un militant, une militante pour faire évoluer les droits LGBTI, etc. Bon, mais il me semble quand même, il faut être très prudent, parce qu'il me semble quand même que si une théorie du genre existe, elle est plutôt du côté, vous voyez, du militantisme, du côté des droits de la personne. Mais alors, il y a aussi, et c'est très différent, ce qu'on appelle les études de genre. Alors, les études de genre, en réalité, ça n'a pas grand-chose à voir. Les études de genre, c'est quelque chose qui... Ce sont des études qui, depuis les années 60, traversent la plupart des disciplines du champ intellectuel, c'est-à-dire la linguistique, l'histoire, la littérature, la grammaire, la psychologie, la psychanalyse, à peu près toutes les sciences humaines et sociales. Hein. Et les études de genre, c'est donc là ce sont des disciplines universitaires, enseignées dans beaucoup de facultés, au départ surtout aux États-Unis et en Angleterre, destiné à comprendre, à analyser comment fonctionnent le masculin et le féminin dans ces différentes branches du savoir. Je peux vous donner, si vous voulez, un exemple très concret, il date d'il y a quelques jours. On ne parle plus, on ne dit plus le Covid-19, on dit la Covid-19. Et c'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'Académie française a voulu nous dire en féminisant ce qui était décrit comme quelque chose de masculin et qui tout à coup est attribué au féminin. Alors, on sait pourquoi, parce que c'est la maladie. Ah, ah oui, c'est la maladie, mais c'est le virus. Si vous regardez en français le et la, je vous conseille de comment dirais-je de enfin c'est là où on j'ai vu un grammairien je crois qui a fait une petite chronique là-dessus il y a quelques jours en disant la langue française là-dessus c'est une langue à vivre sur le masculin et le féminin et on a beaucoup de mal parfois à comprendre pourquoi on dit le la le termite ou la termite, etc. Bon, non, mais c'est tout à fait. Alors, donc au départ, si vous voulez, ce sont des disciplines universitaires qui se sont l'histoire, par exemple. Regardez par exemple les tableaux du XVIIIe siècle hein, et comment se passe. Alors, l'histoire travaille sur le vêtement. L'histoire travaille sur la répartition des rôles dans la vie professionnelle. Voilà. Donc, ce sont des études, si vous voulez, académiques, en réalité, qui se concentraient sur le masculin et le féminin. Alors, cela dit, certains universitaires sont devenus des militants. C'est là où on peut faire une confusion. Vous ne pouvez pas être un historien de l'Antiquité sans faire des études de genre. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas être un grammairien sans vous interroger et comprendre pourquoi en allemand il y a un genre neutre, pourquoi il n'y en a pas en français et comment on s'est débrouillé avec ça. Vous ne pouvez pas étudier la sociologie du travail en France ou partout ailleurs sans faire des études de genre, c'est-à-dire sans vous demander pourquoi les femmes ont accès à certains métiers qui sont réservés aux hommes. Etc. Vous voyez pourquoi elles sont, par exemple, à poste égal, beaucoup moins bien payées que les hommes. Bon. Vous voyez donc là, ce sont des questions là finalement d'études universitaires qui peuvent avoir du coup un intérêt évident lorsqu'il s'agit de lutter contre telle ou telle injustice. Après, vous pouvez franchir le Rubicon, et quand vous franchissez le Rubicon, vous devenez un militant du genre. Bon. Alors, l'Église catholique a très très mal vécu ça, parce que l'Église catholique a surtout regardé, enfin, le magistère, hein, a surtout regardé la théorie du genre. Et c'est avisé que cette théorie du genre était une catastrophe pour la morale naturelle. Parce que les études de genre vont vous expliquer que dans une vie humaine, tout est construit. Que nous sommes nous-mêmes le fruit d'une construction culturelle, sociale, qui fait que nous sommes irréductibles les uns aux autres, heureusement. L'Église catholique a vu ça d'un très mauvais œil parce qu'elle s'est dit, qu'est-ce qui va rester de la nature humaine ? C'est-à-dire, quid de la nature humaine après la théorie du genre ? Y a-t-il encore une nature humaine ? Vous voyez le truc ? Alors, il faut bien vous dire que c'est une. Quand vous entendez. Donc, il y a plusieurs réflexes à accueillir. Quand vous entendez théorie du genre, demandez-vous, parle-t-on de la théorie ou des études ? Ensuite, vous faites l'effort intellectuel d'aller voir quel est l'auteur en question. Parce que c'est une nébuleuse, les études de genre. Hein. C'est une nébuleuse absolue. La grande auteure qui est connue maintenant parce qu'elle est traduite depuis 20 ans en France, c'est Judith Butler, la philosophe Judith Butler. Enfin, d'ailleurs, elle est devenue philosophe, mais elle a une formation de classique, hein, une formation de linguiste et de grammairienne, hein, finalement. Hein. Et alors là, il faut se demander, même si vous allez voir Judith Butler, elle a écrit depuis des dizaines d'années une œuvre maintenant très importante où elle s'est beaucoup contredite. D'accord ? Donc, même Judith Butler, quand vous dites « Ah, c'est Judith Butler qui a dit ça », mais quelle Judith Butler ? Celle des premières années ou celle qui parle maintenant ? Puisqu'en plus, elle a des combats politiques. Bon, donc, vous voyez, c'est une nébuleuse, moi, que je trouve très difficile de résumer en disant la théorie du genre. Quand on entend théorie du genre, c'est en général dépréciatif. Hein, donc, ça évoque le militantisme. Après, il y a les études de genre, vous voyez. Et le débat sous-jacent, c'est, il est philosophique, il est théologique et il porte sur la nature humaine.
Et comment voyez-vous ce qu'avait mis en place la précédente ministre de l'Éducation, comment elle s'appelait, Belkacem, voilà, avec ses abécédaires genrés. C'était dans quel dans quel contexte philosophico-politique
C'était probablement inadapté. La conclusion que moi j'en retire, c'est que c'était inadapté parce que si je reprends l'exemple de ma classe de philo, hein, quand on était, faut prendre des gens qui sont ados et qui vont passer le bac et qui, vous savez, on a du mal à, on nous fait apprendre les tragiques et la poésie à l'école quand on a du mal à comprendre ce que c'est parce qu'on est trop jeune pour comprendre. Ben, les études de genre en classe de sciences naturelles, quand on est en première, c'est trop tôt, c'est pas adapté. À la limite, dans le chapitre nature et culture, dans une classe de le bac philo, ça se comprend, parce qu'on commence à réfléchir, à mettre à distance, un petit peu en philosophie, mais c'était inadapté, absolument inadapté, je pense, de le faire en classe de sciences nat en première. Alors, à l'époque, on m'avait demandé d'éplucher certains manuels là-dessus. Donc, je les ai regardés, du coup, pour savoir de quoi j'allais parler. J'ai vu des manuels, j'allais dire, à peu près innocents sur la question, sans grand danger, à mon avis, pour les élèves. Et puis, j'ai vu quelques manuels chez d'autres éditeurs stupides. Stupides, c'est-à-dire... inadapté avec des textes, des photos inadaptées. Enfin, vous voyez, je pense vraiment c'était. Alors, finalement, ça a fait flop. Alors, on a beaucoup. Les gens se sont. Les parents et parfois les directeurs d'établissement hein, et les enseignants, certains se sont beaucoup alarmés parce qu'ils avaient l'impression qu'on allait enseigner n'importe quoi à leurs enfants et qu'on allait faire l'apologie de je sais pas quoi du libertinage ou de, on a tout entendu à ce moment-là en 2013. Non, franchement non, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat, franchement, mais c'était inadapté, sûrement en classe de SVT ça aurait été mieux placé et peut-être de manière plus intelligente en philo. Mais voilà, il vaut mieux étudier ça à la fac, tout simplement, avec un peu plus de maturité, de distance. C'était trop tôt. Puis demander ça à des profs de sciences nat, je crois pas. Il vaut mieux étudier la reproduction de l'ourson, vous savez. Voilà. Non, c'était pas adapté. Je crois que c'était pas adapté. Mais c'est retombé, hein, parce qu'il y a eu un vent de panique. Quand même, la catastrophe a été très surestimée. Pour le coup, c'était une grippette. Hein. C'était une grippette, ça n'a pas fait de pandémie. Voilà.
Au sujet des... est-ce que vous avez des informations sur le projet de révision des lois bioéthiques qui était sur le point d'être adopté et voté et dont on n'entend plus parler du tout, bien sûr?
Oui. Alors, effectivement, c'était avant la Covid. c'était avant la Covid. Alors, c'était... Bon, les évêques ont été très alarmés de ça. On fait tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de... Comment dirais-je? De stopper certaines dérives, enfin, certains dangers de la révision des lois Claeys-Leonetti. Hein. Je ne suis pas sûr... Alors, le problème, si vous voulez, c'est que qui trop embrasse mal étreint. Hein. Et donc, le débat qu'on a eu sur la révision des lois Claeys-Leonetti, on l'a focalisé sur quelques aspects en particulier l'euthanasie, par exemple. Hein, où, voilà. Mais il y avait énormément de choses dans les révisions, la révision des lois Claes-Leonetti. Hein. Et parfois, comme le diable se niche dans les détails, vous avez des... on n'a pas vu tout ce qui concernait... Enfin, les évêques ont vu, hein, mais ce qui concernait, par exemple, les manipulations sur le vivant. Alors ça a beaucoup inquiété, ça a beaucoup inquiété et ça, à mon avis, légitimement inquiété. Hein, c'est-à-dire, alors vous aviez beaucoup de choses dans la loi. Il faut pouvoir regarder ça paisiblement, aussi paisiblement que possible. Mais vous aviez également la question d'aborder dans le même temps hein, des gens qui sont nés sous X et qui ont droit à l'accès à l'origine de leur naissance, voyez. Hein, et tout ça, vous m'entendez toujours là? Oui, c'est bon, d'accord. Je vois que tout le monde fait comme ça, donc j'en déduis que ça va.
Il y a des micros coupés, ouais. Mais on entend. Ouais, ouais.
Mais je ne vous ai pas perdu, bon, ça va. Oui, donc il y a beaucoup de choses mélangées dans la révision des lois Claes-Leonetti, vous voyez. Et donc, on nous a mis dans un grand sac des éléments extrêmement variés, ce qui est très, très gênant pour Laetitien, vous savez, parce qu'il y a une chose que Laetitien aime bien faire, c'est de singulariser les questions et d'apprendre à bien poser les questions avant de répondre. Or, dans la révision des lois de Claes-Leonetti, on avait tout mélangé, hein. C'est peut-être difficile d'ailleurs de faire autrement, mais vous aviez des questions euthanasie, début de vie, l'accès à l'origine. Après, on pouvait partir sur pourquoi pas la GPA, hein, puisque l'ambiance, si vous voulez, était celle d'enclencher de plus en plus de pratiques qui pouvaient être considérées comme un problème, on va dire. Bon. Donc, vous avez eu un immense brassage. Je crois que les évêques ont fait tout ce qu'ils ont pu, en particulier Mgr Dornelas, pour dire leurs inquiétudes. Je n'ai pas le sentiment que ça ait été beaucoup entendu. Je ne crois pas. Hein, je crois pas. Pourtant, Dornelas était plutôt bon. C'est-à-dire qu'il a, franchement... mais je n'ai pas le sentiment que ça ait été beaucoup entendu. Après, je ne sais pas quel va être le devenir de ça, je ne sais pas. Ça fait partie des choses après épidémie, on verra ce qu'ils vont faire. Mais vous comprenez, c'est très embêtant parce que ce type de loi de bioéthique embrasse énormément de questions et il faut pouvoir voter. Et quand vous votez, vous approuvez quoi ? Vous voyez, ouais, c'est ça le problème. C'est-à-dire que la question de l'accès aux origines des gens nés sous X, et on sait très bien ce que ça fait dans une vie quand on ne sait pas. C'est une question. Ce n'est pas la même question que, je ne sais pas quoi, moi, le clonage, que l'euthanasie. Que, vous voyez, c'est très varié. Et donc, on a été sommé, si vous voulez, c'est-à-dire les religieux, d'être pour ou contre. Donc, vous êtes totalement pour, totalement contre. Donc, c'est juste pas possible, ça. Il faut pouvoir examiner de quoi on parle et voyez ce que ça donne pour l'état d'urgence sanitaire. Hein. On est totalement pour, totalement contre. Donc vous êtes totalement pour le tracing ou contre le tracing. Compliqué. L'éthique aime bien se poser. Enfin, c'est aussi une définition. Hein. C'est l'art de poser les questions.
En tout cas, il y a quand même. Une chose qui m'a amusée, entre guillemets, c'est plutôt le rire jaune. Je crois que si on fait un questionnaire sur « êtes-vous pour l'euthanasie ?», tout le monde va dire « oui » à 75%. Oui, quand on est un légume, c'est plus la peine, enfin bref. Et là, on a pris un soin, « prenez soin de vos anciens ». Qui sont dans les EHPAD, en général dans les EHPAD, on n'est plus grand chose souvent, on est proche, enfin c'est pas les soins gériatriques, mais on se dirige directement. Et là, prenez soin de vos anciens. Donc on pourrait peut-être leur rappeler que avant de voter une loi autorisant tout le monde à se suicider parce que trop âgé, plus bon à rien, etc., etc. Ça, on peut peut-être leur rappeler qu'il fut un temps où il était question de prendre soin des anciens.
Alors là, là vous allez déclencher chez moi une, vous allez réveiller chez moi une colère qui est celle qui m'a accompagné pendant toute cette épidémie. Je suis assez furieux du traitement qui a été réservé. Alors, aux anciens, effectivement, vous mettez le doigt sur quelque chose qui, à savoir, prenez soin de vos anciens. Je vais avoir une réponse cynique à votre remarque, à savoir, on a surtout pris soin de nos anciens pour éviter qu'ils encombrent les services trop chargés des hôpitaux. Et donc, je ne suis pas sûr que c'était vraiment un soin au sens premier du terme. Le paradoxe que vous soulevez, il est réel. Oui, vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que c'est les EHPAD et le sort fait aux personnes âgées en général dans les EHPAD est une honte du système de santé français. Il y en a beaucoup, vous me direz, hein, mais c'est une des hontes. Et quand je dis une honte, c'est-à-dire que c'est inversement proportionnel à la considération que je porte pour les personnels qui travaillent dans ces institutions. Mais je veux dire, le sort fait par l'État français et par la société parfois aussi, parce qu'il n'y a pas que c'est le regard que nous portons sur nos anciens, est une honte, une des pires, à mon avis, à l'heure actuelle. Et donc, je suis furieux de ce discours qui nous a endormis, qui était un vaste anxiolytique sur « prenez soin de vos anciens », alors qu'on sait très bien que dans certains cas, on n'a pas pris soin du tout des anciens. Hein. Mais je dis, ça, c'est inversement proportionnel au travail remarquable que les soignants font auprès des anciens. Hein. Mais la situation sanitaire est une honte nationale. Enfin, il y a des grandes hontes nationales, vous savez, comme ça, avant le système sanitaire, il y en a plein. Maintenant, on va faire l'inventaire, un droit d'inventaire, puis on va encore nous dire que... Enfin bon, maintenant, M. Macron dit qu'il reconnaît une erreur. Mais enfin, les anciens... Il y aura beaucoup de choses à dire, hein, y compris l'absence de lien social. Je trouve ça honteux, mais ça, c'est vraiment une des colères que j'ai en ce moment là-dessus. Je trouve ça honteux. Et donc, je suis content que des anciens se soient un peu révoltés pour dire que, regardez, les anciens font attention globalement en ce moment aux gestes barrières, au port du masque, etc. C'est les jeunes qui ne font pas attention. Parce que les jeunes n'ont pas, c'est une maladie qui ne les concerne pas. Donc, ils ne font pas attention. Hein. Alors que les personnes âgées qu'on stigmatisait parce qu'il fallait encore, sont la plupart du temps des personnes qui font attention aux gestes barrières. Qui font, voilà. Et puis, il y a d'autres situations en EHPAD ou à l'hôpital. Je pense qu'on a fait, excusez-moi, mais passer de la rentabilité et de l'efficacité du système de soins pour du soin. Vous voyez, des personnes âgées. Mais ça, c'est vraiment une. C'est vraiment. J'espère que l'inventaire va être précis et qu'on pourra trouver des pistes. Mais c'est. Ensuite, la question que vous posez porte sur un inventaire sur l'ensemble du système de soins et de sa déconnexion progressive entre l'hôpital, la gériatrie, la médecine de ville, les professions paramédicales. Tout ça est très fragmenté et livré à une technostructure, je dis bien une technostructure, dont nous avons vu la gabegie, hein, pendant cette épidémie. Vous vous souvenez peut-être de ce bus qui est parti de Tours pour aller à Reims Ouais, avec des malades dedans, et Cathy fait demi-tour parce qu'il n'y avait pas le tampon de l'ARS, je crois. Voilà. C'est quand même des, y a eu des situations ubuesques.
Ouais.
Alors, peut-être une dernière question pour pas monopoliser la chaîne, si je veux dire, oui.
Si c'est l'Église sur l'avortement, est-ce qu'elle a avancé un peu ? On pense aux situations de détresse. On a entendu parler d'une gamine de 9 ans, par exemple, en Irlande, qui avait été... Voilà, et bon, il y avait à l'évidence un problème de vie. Et je voudrais savoir un peu quelle est la position de l'Église. Est-ce que c'est un peu au cas par cas, ou est-ce que c'est toujours une position complètement immuable en fonction de la nature humaine et qu'on ne touche pas à la vie ?
Alors, le premier élément de réponse, sur le plan de la doctrine, oui, c'est immuable. C'est-à-dire que l'avortement est considéré comme un acte de mort. Et donc, il n'est pas dans la nature, si vous voulez, d'interrompre une vie qui va apparaître. Donc, l'avortement...
Même si c'est un danger de mort pour la femme ?
Alors, c'est là où ça se complique. C'est-à-dire que... Donc, l'enseignement que de l'Église là-dessus, effectivement, sur le plan doctrinal, il est unique et unilatéral. Parce que si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, l'objet est toujours mauvais. Voilà.
Oui.
Et les circonstances... Non, alors la doctrine n'a pas évolué. Alors, la doctrine n'a pas évolué du tout. Dans l'actualité, il y a eu l'exemple de la petite fille de Récif, c'est peut-être à ça que vous pensez, il y a déjà quelques années. Et puis, il y a une invitation... la doctrine n'a pas évolué. En revanche, les circonstances sont de plus en plus prises en compte. Si on prend l'exemple de la petite fille de Récif, mais on pourrait prendre l'exemple aussi de Jean-Paul II, qui, au moment de Sarajevo, l'affaire de Sarajevo, des femmes violées, vous savez, par les militaires, alors que le grand imam avait dit qu'il n'y avait pas de problème, si j'ose dire, pour l'avortement, Jean-Paul II s'était opposé à l'avortement. Vous voyez à quel point la doctrine est immuable, mais depuis, je ne sais pas moi, une bonne dizaine d'années, les circonstances sont de plus en plus prises en compte, et pas seulement des théologiens, mais beaucoup d'évêques ont mis à distance la doctrine. On voit très bien le cardinal Lustiger déjà, le cardinal 23, le cardinal Schönborn, hein, et le pape lui-même, le pape François, a fait de cette question l'occasion d'une miséricorde possible. On voit très bien ça. Hein. Mais c'est-à-dire qu'actuellement, l'articulation se joue, pour répondre aussi précisément que possible à votre question, hein, ça se joue entre une doctrine qui est en principe est immuable et l'application d'une miséricorde au cas par cas qui effectivement semble, je suis prudent, hein, semble être possible, mais si vous voulez, je suis très prudent parce que même le pape François a des déclarations très dures sur l'avortement. Très dur. Hein. Et après, au cas par cas, effectivement, il a eu des déclarations, et pas seulement lui, beaucoup plus miséricordieuses. Beaucoup plus miséricordieuses. Donc il y a une espèce de, si vous voulez, de tension très dure sur cette question entre l'immuabilité de la doctrine et une miséricorde, en effet, au cas par cas. Mais avec le cas par cas, le cas par cas ne fait jamais une doctrine. C'est toujours un fléchissement de la norme, un fléchissement circonstanciel, on pourrait dire, de la norme. Mais voilà, c'est toujours enseigné comme étant un acte de mort. Oui, c'est vraiment le pape actuel hein, qui a le plus, je dirais pas pris ses distances, mais envisagé la pratique de la miséricorde pour ça. Mais oui, c'est un bon jésuite, le pape. Hein.
La miséricorde, elle est toujours dans le sacrement de réconciliation, quand on se confesse.
Ah oui, mais ça, alors là, ça si vous voulez, ça par... Oui, vous avez raison de j'aurais dû d'ailleurs le redire, bien entendu. L'avortement n'est pas l'objet d'une sanction définitive, toujours ouvert à la réconciliation sacramentelle, bien sûr. Ah oui, bien entendu. Ah oui, 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 non, mais ça...
D'accord.
Voilà. Bon, écoutez, je vous propose d'en rester à ce point. Et puis, alors, je vous remercie beaucoup pour votre patience et votre interactivité pendant tout ce parcours qui est vraiment une... C'est tout à fait inédit. Bon, écoutez, j'espère. J'en parlais avec Jean-Yves l'autre jour. Je trouve que ça a donné, enfin, de mon côté, hein, les meilleurs résultats possibles dans le contexte qui est le nôtre, hein, qui n'était pas facile. Voilà. Moi, je me rends compte, si vous voulez, je disais ça aussi à Jean-Yves, que y a peut-être un petit peu moins d'apport théorique. Parce que quand on est en présentiel, il y a plus de temps, etc. En revanche, je trouve que sur l'interactivité, donc les questions, ça a été mieux en fait. Parce qu'on a, en fait, on avait plus de temps pour les questions. Et donc, ce qui a peut-être manqué en termes d'apport, parce qu'on était moins longtemps ensemble, a été plutôt pas mal complété par les échanges et les questions.
Alors, Laurent, j'ai eu un message hier d'Aude Ragozin.
Oui.
Il voulait te remercier en son nom et au nom de tous les étudiants et étudiantes. Elle ne pouvait pas être là cet après-midi avec nous, mais vraiment, elle tenait à beaucoup te remercier, bon, en particulier aussi pour ta patience.
Parce que,
au début, c'était quelque chose qui t'angoissait beaucoup et malgré ça,
tellement vivant. Je suis un dinosaure pour tous les aspects de technique. Et donc, c'est un effort collectif, je pense. Mais alors, Jean-Yves a été un excellent pédagogue. Hein. Donc,
Jean-Yves.
Voilà. Merci Jean-Yves.
Et merci
beaucoup. Merci à toutes et à tous.
Merci.
Et bonne suite hein, pour le parcours.
Okay. Bonne suite à vous.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Et avancez bien.
Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.